Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints là pour cette journée. On a vécu une journée magnifique hier, n'est-ce pas? Elle était magnifique non pas parce qu'il faisait beau, et merci Seigneur, mais elle était magnifique parce que Dieu a commencé à nous parler et à semer des choses dans notre cœur et ce qu'il a continué de faire ce matin. Et oui, Dieu parle et c'est ça qui est extraordinaire. Il parle parce que c'est un Dieu qui est vivant. Et on ne peut pas le cloisonner à ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il agit encore aujourd'hui et il agit au travers de nous, au travers de ses enfants, d'une manière tout à fait simple, tout à fait humble. Et il nous parle, et il sait toucher nos cœurs. Vraiment, merci Seigneur de ta parole. Ça marche si c'est derrière aussi quand même, ce truc? Ok, voilà. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu... nous rejoindre, et Dieu sait qu'il y a des personnes qui sont endeuillées, qui n'ont pas pu venir nous joindre, il y a des personnes qui sont malades, et nous prions pour eux. Et puis je vous propose une chose, peut-être après le culte, vous avez vos téléphones, aujourd'hui, là, maintenant, ils sont coupés, mais tout à l'heure, envoyez un SMS à quelqu'un qui n'est pas là, et dites-lui, la communauté est avec vous, faites-le. Et même si quelqu'un reçoit 10 messages de la communauté, eh bien, c'est tant mieux. Voilà, faites-le. Hein. Faisons-le, parce que je suis aussi impliqué. Voilà. Alors, que nous a-t-il dit hier? De quoi nous a-t-il parlé? Vous savez, souvent, le Seigneur, il fait des choses, puis après, il donne le sens de ce qu'on fait. Il envoie le Saint-Esprit, par exemple, dans Acte 2, et puis après, l'apôtre Pierre, il se lève, il explique ce qui s'est passé. Voilà. Alors, de quoi il nous a parlé? Quel est le sens de ce que nous avons vécu hier, de ce que nous avons vécu ce matin? C'est que, eh bien, il nous a parlé, en quelque sorte, de l'Église. De l'Église. Il nous a parlé du « nous ensemble ». Du « nous ensemble ». Alors, ce matin, je voudrais prolonger cette parole, la répéter avec mes mots, taper sur le clou, si vous voulez, pour l'enfoncer un petit peu plus, pour que nous puissions vraiment saisir pleinement le sens de l'Église locale. Entre le Seigneur et l'Église, il y a une histoire d'amour. Je le répète, parce que c'est peut-être un petit peu fort, pour certains, peut-être un peu excessif, mais c'est ce que la Bible nous dit. Entre l'Église et le Seigneur, il y a une histoire d'amour. Amen. Et ce n'est pas moi qui l'invente. L'apôtre Paul va dire ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Alors, je ne vais pas donner de leçons aux maris ce matin, c'est pas mon but, mais j'ai appuyé sur l'amour de Christ pour son Église. Comme Christ a aimé l'Église, Marie, aimez vos femmes. Et si Jésus porte un tel regard sur l'Église, ne devrions-nous pas, nous qui voulons aimer le Seigneur, porter aussi un tel regard sur l'Église? Et si Jésus a une telle passion, il s'est donné pour elle, ne devrions-nous pas, nous aussi, avoir ce même intérêt? Alors pour certains, l'Église est plus un concept qu'une réalité concrète. L'Église universelle, le rassemblement de tous les croyants, de tout lieu et de tout âge, qui se concrétise en l'Église universelle. Et cette réalité, ce concept, se concrétise en un lieu défini et dans un temps défini que l'on appelle l'Église locale. Dans l'Église locale, le concept devient réalité. L'amour de Jésus pour son Église, l'Église universelle, l'Église que le Seigneur a rachetée, devient réalité dans le concret. Alors ce matin, je voudrais poser une affirmation, je voudrais affirmer quelque chose et puis répondre à une question. L'affirmation est la suivante, et je voudrais que vous tendez l'oreille, écoutez attentivement. Dieu est à la source du besoin que les chrétiens ont les uns des autres. Dieu est à la source du besoin que les chrétiens ont les uns des autres. C'est Dieu qui a créé en nous le besoin que nous avons d'être rassemblés pour manifester qui il est. Et la question que je vais tâcher de répondre ce matin, c'est pourquoi avons-nous besoin les uns des autres? Pourquoi les chrétiens ont-ils besoin d'une communauté locale? Répondre à la question en disant que c'est parce que la race humaine est une race grégaire, vous savez, un petit peu comme les moutons qui se rassemblent toujours dans un endroit particulier. Voilà. Et c'est vrai que l'Église est comparée comme à un troupeau. Mais il me semble que cette explication est un petit peu insuffisante. Pour pouvoir répondre à cette question ou répondre à une autre question, il faut parfois se poser d'autres questions. Et la question que je vous pose, comment avons-nous été sauvés? Par quels moyens nous sommes devenus chrétiens? Alors je vous laisse le temps de la méditation pendant que je tourne dans ma Bible. Comment êtes-vous devenu chrétien? Vas-y, Gabriel, si tu... Par d'autres. Très bien. Tout le monde est d'accord? Ouais. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Verset 23. Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas par une semence périssable, mais par une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Tout être qui vit est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Cette parole, celle qui nous a fait naître de nouveau, verset 25 nous le dit, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Nous sommes nés de nouveau en recevant une parole, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous avons reçue, que nous avons accueillie, qui nous a transformés, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Et cette parole ne vient pas de nous, elle n'est pas montée en nous, de par nous-mêmes, elle nous a été annoncée. Elle est venue de l'extérieur de nous pour nous impacter à notre intérieur. Quelqu'un est venu nous l'annoncer de l'extérieur pour nous impacter à l'intérieur, à parole de Dieu. Quelqu'un nous a annoncé la parole de l'Évangile. En 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, il est marqué, l'apôtre Paul dit ceci, « Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. » Sous-entendu le contexte, la prédication de la croix. Alors lorsque nous pensons à prédication, on pense tout de suite à un type sur une estrade, derrière un pupitre, en train de déclamer la parole. Mais il n'y a pas que cette forme de prédication, et je dirais même que c'est l'exception. Hier, qu'avons-nous fait ? Qu'est-ce que nous avons fait lorsque nous étions en petit groupe? Nous nous sommes prêchés l'Évangile les uns aux autres, à nouveau. Nous avons entendu de la bouche des autres une parole qui nous a impactés. Nous nous sommes instruits les uns les autres. Nous avons annoncé l'Évangile à nouveau. Colossiens chapitre 3, verset 16, « Que la parole du Christ demeure en vous, c'est-à-dire au milieu de vous, dans toute sa richesse, instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres. » Alors pourquoi avons-nous besoin les uns des autres? Nous avons besoin les uns des autres pour entendre une parole extérieure à nous, qui nous vient du Christ, mais que le Saint-Esprit nous amène à nous par les uns et les autres. Hier, nous avons redit, et ce matin, nous avons redit l'évangile les uns pour les autres. Et nous avons tiré un bon bénéfice, n'est-ce pas? Je voudrais vous lire un petit passage d'un livre de Dietrich Bonhoeffer, qui s'appelle « De la communauté ». Et je trouve que c'est très impactant. Le chrétien a donc absolument besoin des autres chrétiens. Ce sont eux qui peuvent vraiment et toujours à nouveau lui ôter ses incertitudes et ses découragements. Le chrétien, en voulant s'aider lui-même, ne fait que s'égarer davantage. Il lui faut la présence du frère dont Dieu se sert pour lui porter et lui annoncer sa parole de salut. Il en a besoin à cause de Jésus-Christ. Et là, ouvrez bien vos oreilles, laissez-vous impacter. Car le Christ que nous portons dans notre propre cœur est plus faible que celui que nous apporte la parole. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Le Christ que nous portons dans notre propre cœur est plus faible que celui que nous apporte la parole. Antoine m'a raconté une blague. On était en voiture, je ne sais plus à quelle occasion. Je n'ai pas capté de suite. Alors aussi, ouvrez vos oreilles. Bon, j'ai un esprit peut-être un peu plus lent que le vôtre. Mais écoutez bien. Un type recherche la volonté de Dieu. Il va voir un autre gars, bon, un frère de l'assemblée, peut-être son pasteur. Et il lui dit, par rapport à sa recherche de volonté, « Dieu m'a dit non. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà. Alors, je trouve cette blague très fine. J'ai pas réagi de suite, en fait. Hein. En fait, la chute de cette blague est celle-ci. Si Dieu t'a dit non, qui suis-je pour dire le contraire de Dieu ? Mais en y réfléchissant un peu plus et d'un peu plus près, cette blague nous parle d'un travers qui est assez répandu dans les milieux protestants. Et si je ne veux être offensant pour personne, ni blessant pour personne, au moment de la réforme au XVIe siècle, les protestants rejetaient l'autorité du pape. Luther et les réformateurs considéraient la parole comme seule source d'autorité, la sola scriptura, hein, supérieure au pape et au concile. Les catholiques ont argumenté, et je pense parfois à juste raison. Vous protestants, vous rejetez le pape, mais vous avez des milliers de papes. Chaque protestant est un pape pour lui-même. Et je pense qu'on peut pointer encore aujourd'hui cette erreur qui est commune pour nous protestants. Dieu nous parle certainement de manière individuelle. Et il faut qu'il nous parle de manière individuelle. Mais nous avons besoin de confirmation de la part de la communauté chrétienne. La pratique de la prophétie est importante au sein de l'Assemblée. Que deux ou trois prophétisent, voire plus. L'apôtre Paul le disait, et Loïc nous le rappelait. Je veux que tout le monde prophétise, je veux que tous prophétisent. Mais que les autres jugent. Et du discernement. Quand quelqu'un prêche du haut de l'estrade, quand moi je vous prêche, vous avez l'obligation de voir si les paroles que je dis sont bonnes et conformes à l'ensemble de la parole. La Bible ne se prête pas à des interprétations particulières, dit Pierre. Elle se lit de manière individuelle, mais elle se lit ensemble. Et c'est ce que nous avons fait hier. Et ensemble, nous la comprenons. Lorsque Paul prêchait à Béré, les croyants de Béré regardaient dans les Écritures pour savoir si Paul disait quelque chose qui était conforme avec les Écritures. Alors ici, je voudrais vraiment insister sur l'importance des groupes de maison, des groupes de prière ou des groupes de rencontres, quels qu'ils soient, 2, 3, 4, 5, 10, les groupes de prière, les groupes de maison. C'est pour répondre à ce besoin fondamental qui est voulu par Jésus, le besoin des uns des autres à écouter la parole de Dieu, que nous voulons insister fortement. Faites partie d'un groupe de maison. Faites partie cette année d'un groupe de maison. Peut-être vous n'avez jamais été dans un groupe de maison. Peut-être je prêche déjà des convertis qui savent l'importance des groupes de maison. Mais faites-le. Soyez réguliers. C'est comme ce groupe que nous avons formé ce matin où nous avons échangé la parole de Dieu. C'est important, n'est-ce pas? Nous avons été impactés les uns par les autres. Nous avons re-entendu l'évangile les uns par les autres. Les groupes de maison sont faits pour ça. On a besoin de réciprocité pour nous annoncer l'évangile les uns aux autres. On ne peut pas se nourrir simplement que du pupitre, que du bonhomme qui prêche une fois tous les dimanches. Le temps de Covid a desserré les liens essentiels de la communion de l'Église. Et beaucoup de personnes ont été nourries à des cultes retransmis, à des vidéos. C'est un pis-aller, frères et sœurs. C'est un pis-aller. Ça ne peut pas remplacer la réciprocité de l'Évangile voulu par Dieu. Merci Seigneur pour tous les Zooms. Merci Seigneur pour les vidéos. Merci pour les cultes retransmis, etc. Quand je visite des gens qui n'y ont pas mis les pieds depuis longtemps, ils essayent de m'encourager. Et ils me disent, ne t'inquiète pas, Norbert, on s'est nourri. On a regardé la vidéo de tel culte ou de tel culte. Pendant un an et demi. Ben, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Parce que oui, effectivement, ils sont nourris, mais ils n'ont pas vécu la dimension de la réciprocité que le Seigneur veut en nous plaçant ensemble. La vie chrétienne ne se résume pas simplement en temps de louange et en bonne prédication du pupitre. Nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres, les uns par les autres. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Vous avez appris de Dieu comment vous devez vous aimer les uns les autres. Vous avez appris de Dieu, c'est la dimension individuelle. Dans ma relation individuelle avec le Seigneur me communique des choses. Eh bien, ce que j'ai appris du Seigneur, eh bien, je le communique pour aimer les uns les autres. Pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Il y a une relation personnelle avec le Seigneur et il y a la mise en pratique dans la communauté où Dieu nous a placés. Dans le culte personnel, nous avons appris que Dieu me pardonnait en Jésus-Christ. Eh bien, nous apprenons le pardon en communauté. Nous avons appris de manière individuelle que Christ nous a fait grâce. Nous apprenons en communauté à faire grâce à ceux qui peut-être nous offensent, de manière intentionnelle ou pas. C'est rare que ce soit de manière intentionnelle. Vous avez appris que Dieu vous a tout donné en Jésus-Christ. Eh bien, nous apprenons à donner en communauté. Vous avez appris de Dieu comment vous devez vous aimer les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres, et c'est Dieu qui a mis en nous ce besoin. Je voudrais conclure pour vous dire que la communauté locale est une grâce, et que le rassemblement de l'Église est une grâce. Nous ne sommes pas censés rester entre nous tout le temps. Le centre de Gagnères nous rejetterait à bout de moment, hein? Un week-end, une rencontre ou deux dans la semaine, le culte du dimanche, sont des grâces que Dieu nous fait pour nous donner un avant-goût de ce que l'on sera ensemble dans le royaume de Dieu. C'est un avant-goût, on ne s'est pas régalé. Ce week-end, vous avez pas été aux anges ce week-end? Est-ce qu'on n'a pas touché le trône de Dieu ce week-end et ce matin? Le trône de Dieu environné de sa gloire. Et puis l'ange qui vient et qui nous dit, voilà, j'ai touché tes lèvres. Oui, c'est vrai, tu habites au milieu d'un peuple aux lèvres impures, mais le Seigneur nous montre qu'il a touché nos lèvres, qu'il nous a justifiés. C'est incroyable, nous avons vécu le ciel sur la terre, quelque part. Moi, j'étais là, j'étais touché, impacté, je pense que vous l'avez été. Ça a été une grâce. Mais tout à l'heure, il y aura une prière finale. Vous savez, je ne suis pas très liturgique. Mais nous aimons bien terminer le culte par une prière qu'on appelle une prière d'envoi. La prière d'envoi, ça ne signifie pas que c'est la fin du culte. Ça signifie que le temps de grâce du rassemblement est terminé, que nous avons reçu la provision pour aller dehors, disperser. Où on doit redonner. Parce que Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle, mais Christ aussi aime les perdus. Alors, en semaine, Dieu nous a dispersés, Dieu nous disperse. Dieu nous a semés dans le monde. Il y a une parabole qui dit que, le champ, c'est le monde, et que les fils de Dieu sont semés dans le monde. Nous sommes semés dans le monde. C'est le Seigneur qui le fait. Pourquoi faire ? Nous sommes semés dans le monde. Porter du fruit, les gerbes. Les gerbes. Chacun d'entre nous, nous avons des gerbes. Là où Dieu nous a placés, on ne le sait peut-être pas encore. Les gerbes. Dieu nous a fait la grâce de la communion. Ensemble. Et demain, on sera dispersés. Alors, l'Église, pour certains, c'est parfois un fardeau. Eh bien, j'espère que, à partir de ce week-end, par la grâce de Dieu, vous considérerez l'Église, l'Assemblée, non pas comme un fardeau, mais comme une bénédiction, une grâce d'être ensemble. Oh, qu'il est doux pour des frères, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Vous savez ce qu'a fait Pierre ? Pierre, il était dispersé, il était en prison. Et quand il est sorti de prison, par la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il est allé faire ? Hein ? Taper à la porte du groupe de frères qui se réunissaient. Il a vécu la séparation comme un manque, la dispersion comme un manque. Et la première chose qu'il a fait, c'est d'aller courir voir ses frères. On ne l'a pas cru, on l'a laissé à la porte. Voilà, l'Église locale, une bénédiction, une grâce. Pourquoi avons-nous besoin les uns des autres ? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Pour que l'Évangile puisse se répéter les uns par les autres. Pour que nous puissions nous encourager par l'Évangile, par la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais prier, puis je vais laisser la place à Frédéric pour nous amener dans un temps de Sainte-Cène. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Amen. Merci pour ce temps vécu. Merci pour cette grâce et cette bénédiction. Et Seigneur Jésus, tu nous as enrichis, Seigneur, les uns par les autres. Tu nous as annoncé l'Évangile, les uns par les autres à nouveau. C'est ta parole qui nous donne la vie et nous l'avons reçue. Et nous voulons, Seigneur Jésus, te dire merci pour la grâce que nous avons vécue, Seigneur, ce week-end. Et que nous allons vivre, chaque fois que nous allons nous réunir, une anticipation du royaume de Dieu. Seigneur, nous sommes imparfaits en tant qu'Église locale. Mais l'apôtre Paul ne désespère pas de cette imperfection. Il dit, Christ vous fera paraître devant lui, saint, irréprochable. Vêtu d'une robe extraordinaire de blancheur. Seigneur, nous sommes en marche pour ça. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Merci pour l'Église locale. Merci, Seigneur, pour l'Église. Seigneur. Seigneur, enfonce le clou toi-même dans le nom de Jésus. Amen.
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 Nous dit de faire attention à ceux qui sont derrière la porte et qui reviennent, pour quelque raison qu'ils soient partis, et qu'on sache ouvrir la porte et aussi savoir les accueillir et les re... Voilà, comme si c'était la première fois, ouvrir cette porte et les recevoir avec l'amour que le Christ a pour eux, et les regarder autrement, les regarder avec les yeux du Seigneur qui les... qui dit voilà, reviens, tu reviens, et je t'accueille dans ta maison, et que nous sachions nous aussi ouvrir cette porte et accueillir ceux qui étaient derrière.
Amen. Amen.